Quatrième partie. Là, c'était cette atmosphère indéfinissablement tiède qu'on peuplait des griseries, les beaux bras frais lavés, les seins nus librement promenés des jeunes femmes et tout cet on ne sait quoi émané de leur chair où il y a de l'œillet et du fauve. Boubouroche, la lampe au poing, regarda autour de lui et ne vit rien qui ne lui fût familier. Dans un coin, discrètement, le tub. Ensuite, la longue table de toilette hérissée d'innombrables et mystérieux flacons, le sofa plat, commode, pour y mettre les bas, et où une jeune croupe élargie s'est creusée peu à peu sa place. Il souleva de sa main les sombres serges qui en masquaient un des murs. Il vit les jupes rigides aux hanches que prolongeaient invraisemblablement la courbe des porte-manteaux, mais d'où ne sortaient point en dessous les ridicules jambes de l'ennemi. Ses doigts, plongés au cœur des soies, se butèrent à la cloison. Point d'homme, point de rival caché là, suffoquant et retenant son souffle par crainte des traîtres froufrous. Mais, plus encore, la chambre à coucher d'Adèle ne disait pas les farouches luttes amoureuses. Avec ses meubles symétriquement disposés et dont l'affolement des poursuites n'avait pas bouleversé le bel arrangement bourgeois, son large lit, que surplombait semblable à un dos de mastodonte, un insoupçonnable édredon. Une cheminée de marbre blanc, dont les montants parallèles empiétaient sur le sol en griffes contractées, soutenait une mignonne pendule de saxe aux aiguilles d'or évoluant lentement dans un cadre de toutes petites roses, et à l'éclat des dorures immaculées, à la blancheur des housses tendues sur les fauteuils, aux cônes irréprochables couvraient devant la fenêtre un lourd rideau de reps outre-mer, on sentait la femme d'intérieur, toute à la coquetterie de son petit chez-soi, et bien trop occupée, seigneur, à moucharder les grains de poussière pour trouver le temps de songer au mal. Tout de même, par acquis de conscience, Boubouroche, posant la lampe sur le parquet, se coucha à plat ventre et regarda sous le lit. Il ne vit rien. Les placards, dont il amena à lui les portes, lui montrèrent des entassements de rien du tout, des accumulations de loques épinglées, de cartons démolis, de coupons hors d'usage, toute cette friperie glanée à droite et à gauche depuis des temps immémoriaux, sur les coins de table et sous les sièges soigneusement échafaudés maintenant et poivrés, de peur des mythes où se trahit l'âpre épargne des femmes qui n'aiment pas à perdre. Pauvre petite, fit-il avec un hochement de tête ému. Il vit aussi la cuisine et, frappé d'admiration, tant rougeoyaient les cuivres ardents des casseroles. Celles-ci, pendues par leur queue, filaient de la porte à la fenêtre en constellations habilement graduées, et c'était là un beau spectacle où s'attarda et se complut un instant le sens délicatement artistique de l'excellent Boubouroche. Mais son tort fut de pousser avec violence la porte de la salle à manger. Un souffle frais monta. La flamme de la lampe, soulevée au-dessus de la mèche, grimpa à mi-hauteur du verre, s'élargit, bleuit et mourut. Boubouroche, submergé de nuit, remarqua alors quelque chose de tout à fait anormal. Un buffet gigantesque, de chêne, si haut que son léger couronnement de colonnettes joignait la céruse du plafond et l'écaillait d'une imperceptible morsure, débordait, ventre énorme, sur l'exiguïté de la pièce. Or, de ce buffet, chose étrange, tout à fait anormale, je le répète, et de tout point inexplicable, Boubouroche, le cou tendu, reconnaissait un mince tracé lumineux l'enserrant en ses cassures brusques d'un rectangle la place des panneaux inférieurs. Quel mystère est-ce là ? L'oisiveté de quelque De quelle main malfaisante était venue frotter là du phosphore d'allumette au risque d'abîmer ce beau meuble? Il fit 5 pas. Ses doigts tâtonnants rencontrèrent une saillie de bois. Il tira. Et ce qu'il vit, un homme, oui, un homme était là, dans ce rez-de-chaussée de buffet déménagé pour la circonstance, est devenu une manière de petite maisonnette, insuffisamment aérée à vrai dire, et basse, un peu trop de plafond. C'était un monsieur très correct, de 25 ans environ, et de visage sympathique. Il portait un lorgnon, et dans le nœud en chou de sa cravate lavalière, étincelait le feu vert d'une épingle de prix. Il était là-dedans, comme chez lui, assis sur ses cuisses, en tailleur, pas très bien, pas trop mal non plus, serein au reste, en homme, qu'a effleuré de son aile une aimable philosophie et qui s'est accepté, d'une âme pacifiée, les petits inconvénients de certaines situations fausses. Le panneau latéral du meuble soutenait ses reins fatigués, cependant que, gravement, à la lueur d'un photophore dressé entre ses deux genoux, il fourbissait d'une peau de daim la trompe de sa bicyclette, histoire d'occuper ses loisirs en attendant que le départ de Boubouroche lui permît de passer à d'autres exercices. Lorsqu'il se vit découvert, il ne manifesta aucun étonnement. Il se montra parfait de tact, irréprochable d'éducation, évitant même de se répandre en explications superflues, comme n'eût pas manqué de faire un imbécile du commun. Simplement, c'était sûr, fit-il une gaieté au coin des lèvres. Cela devait finir comme ça un jour ou l'autre, enfin. Aujourd'hui ou demain, un peu plus tôt, un peu plus tard. Là-dessus, il sortit de son buffet, posa le photophore sur une table, tira de sa poche son calepin, tira de son calepin sa carte et l'attendit à Boubouroche. Oui, voilà ce qu'il fit, ce monsieur. Mais ce qui ne saurait être dit, rapporté en termes trop pompeux, ce fut l'extrême courtoisie qu'il apporta à l'accomplissement de cette difficile opération. Une courtoisie sans bassesse, certes, pleine pourtant de déférence et où perçait, sensible à peine, une pointe d'apitoiement. On y sentait l'homme de cœur qu'un hasard a mis en présence d'une infortune étrangère et qui prend une part discrète. Il se résuma. « Je me tiens à vos ordres, monsieur. » Dans le salon, Adèle, qui ne se doutait de rien, continuait à jouer du piano, une valse espagnole d'un entrain endiablé, et qu'elle enlevait d'une façon brillante avec, dans les basses, d'énergiques plaquées rendant les coups de tambour de basque. Cependant, Boubouroche, assommé, le sang aux yeux, regardait cette main qui se tendait vers lui, ce bout de carton qui s'agitait dans le vide comme pour réclamer l'attention et faire souvenir qu'il était là. « C'est ma carte, » répéta le monsieur avec beaucoup de politesse. « Veuillez me faire l'honneur de la prendre. » Boubouroche comprit enfin. Du même geste dont écolier, il raflait les mouches au repos, il rafla la carte, la jeta sans l'avoir lue en la poche de son veston. « C'est bien, » dit-il, « allez-vous-en, je vous ferai savoir mes volontés. » Le jeune homme, qui ne s'en alla pas, reprit. « Excusez-moi, monsieur, je serai naturellement bien aise de savoir ce que vous comptez faire. Oh, je ne vous interroge pas, croyez-le bien, une telle familiarité ne serait sans doute pas de raison, mais enfin, en un mot, monsieur, je ne suis pas sans inquiétude. » Vous êtes violent, et je ne sais jusqu'à quel point j'ai le droit de vous laisser seul, puisqu'aussi bien vous n'avez plus rien à apprendre, avec une personne qui... Vous, interrompit Boubouroche, et ses formidables poings clos précédaient sa marche en avant, Vous allez commencer par me foutre la paix. Fit le jeune homme choqué. Un mot encore, reprit Bouboura. Je dis un seul, hein. C'est clair, n'est-ce pas? Un seul mot. Je vous empaille par le fond de la culotte et je vous envoie par cette croisée voir les poules. Permettez. Silence, taisez-vous. De sa manche, il séchait son front. Il continua. Si un instant, vous pouviez deviner ce qui se passe en moi à cette heure, si vous pouviez supposer à quelle force de volonté je me retiens et je me crampe, je vous le certifie, je vous le jure, vous voudriez, à la pensée de seulement ouvrir la bouche, vous voyez bien ses doigts, n'est-ce pas? Savez-vous de quoi il tremble? De l'envie folle, impérieuse de monter jusqu'à votre cou et de s'implanter en vos chairs. Oui, vous seriez terriblement imprudent de vous obstiner à parler après que je vous en ai fait la défense. Et c'est un bonheur pour nous deux, un grand bonheur, que je me connaisse. Allez-vous-en, croyez-moi. Rendez-nous ce service à tous, car si vous n'êtes pas parti dans une seconde, il se passera ici des choses. Il y aura du sang par terre. Et cela, entendez-moi bien, je vous le dis parce que je le sais. Ce sera le vôtre ou un autre, peu importe. Allez-vous-en, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je suis un homme très malheureux et dont il ne faut pas exaspérer le chagrin. Allez-vous-en. Un galant homme est toujours un galant homme, même le jour où certaines circonstances de la vie l'ont mis dans la nécessité de se cacher dans un buffet. L'homme au buffet fut très bien, d'une témérité sobre, sans éclat et sans arrogance. Il ne verdit ni ne s'émut. Il répliqua froidement, « Monsieur, il arrivera ce qui arrivera. Je n'ai aucunement, croyez-le, l'intention de vous provoquer, mais je quitterai cette maison quand j'aurai reçu de vous l'assurance que vous ne toucherez pas à un seul cheveu de la personne qui est là-bas. Je vous en demande votre parole d'honneur et c'est le moindre de mes devoirs. Vous êtes extraordinaire, vous me permettrez de vous le dire, avec vos airs de me mettre à la porte d'une maison qui n'est pas la vôtre, et si je veux bien me rendre à vos ordres, eu égard à votre état d'exaltation, vous ne sauriez moins faire, convenez-en, que de céder à ma prière. » Bouboroche sentit venir l'instant où ça allait mal tourner. D'une voix blanche, où tremblait l'excès d'une douleur capable de tout, « Je vais faire un malheur, » dit-il. Mais l'autre, si crânement, lui répondit « Faites-le !» qui demeura bouche bée, désorienté devant la hardiesse généreuse de ce blanc-bec qui, avec tant d'aisance, tant de chic, tant de jeunesse, tenait tête à plus fort que lui et acceptait sans discussion le montant de la carte à payer. Ayant encore une fois la fierté de sa poigne, moins qu'il n'en avait la méfiance, il trouva la force de se contenir. Le mouton en lui, une fois de plus, mit la patte sur le sanglier. Partez, mais croyez-moi, faites vite. J'ai votre parole, dit le jeune homme avec un doux entêtement. Bouboroche, poussé à bout, eut un souffle de bœuf sous le coup de masse et mâchonna à bouche close un « oui » dont le monsieur prit acte d'un signe de tête lent et grave. Puis, resté seul en cette sinistre salle à manger, que la flamme de la bougie emplissait de fantastiques ombres, il tomba où cela se trouva au hasard de la première chaise qui le reçut. Ses larges paumes frappèrent ses genoux. Mon Dieu ! Adèle, dans le salon, jouait toujours. Elle faisait des gammes à présent sur la ligne blanche du clavier. Ses mains blanches aussi galopaient. Elles se poursuivaient sans relâche, et quand l'une avait rejoint l'autre, c'était un tour de celle-ci de s'élancer sur celle-là, pour ensuite refuir devant elle, pareillement de tout petit chien qui joue à se donner la chasse. Elle salua d'un mince sourire qui raillait la réapparition de Bouboroche. Mais, ayant lu dans ses yeux de fou que les choses avaient mal tourné et qu'il avait su, fine mouche, mettre la main sur le pot aux roses, elle resta railleuse et souriante. Bouboroche s'était approché. D'une voix d'où des rages se contenaient, il demanda « Qui est cet homme ?» Adèle, qui avait parfaitement entendu, et dont les doigts intentionnellement attardés sur les basses sonores du piano y déchaînaient d'assourdissantes tempêtes, tendit l'oreille et dit « Quoi, hein ?»« Je te demande !» hurla Bouburoche. « Qui est cet homme ?» Cette fois, elle daigna comprendre. Elle cessa net son jeu, ayant élevé jusqu'aux yeux de son amant ses yeux de pervenche profonds et purs, elle répondit « Je ne sais pas ».